Cœur Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
Comme tous les lundis, entrons dans les musées et les galeries en quête de beauté, d'illumination, de surprise et de découverte. Et là, c'est un événement qui va se dérouler cette semaine, demain mardi à 18h et mercredi à 14h. Nous serons à l'hôtel Drouot, en salle des ventes, où nous entendrons votre maillet, David Norman, adjugé tel ou tel lot. Alors, commissaire-priseur, patron de l'étude ADER, l'une des plus vieilles études, puisqu'elle a été créée en 1692. Comment avez-vous rencontré Gérard Depardieu? Comment avez-vous eu l'idée de cette vente? Est-ce qu'il veut tout vendre pour partir au bout du monde? Est-ce que c'est un caprice de star? Pourquoi il donne tout? Et comment ça s'est passé? Vous l'avez rencontré la première fois, je crois, dans son restaurant, La Fontaine de Gaillon.
Alors j'ai rencontré Gérard Depardieu lorsqu'il avait décidé de vendre le contenu de la Fontaine Gaillon, le restaurant qu'il avait dans le deuxième arrondissement.
En face de chez Drouot.
En face de chez Drouot, exactement. Et qu'il a eu pendant quelques années, et puis finalement qu'il a vendu. Et donc j'ai eu le privilège de vendre le contenu du restaurant. Et j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. Et il m'a fait visiter son restaurant. Il est arrivé, il m'a dit, tiens, bon, un coup d'huile d'olive, elle est formidable, c'est moi qui l'ai fait. Il a pris une bouteille d'huile d'olive, il l'a bu au goulot, il m'a passé la bouteille, je l'ai bu, puis comme ça on est devenus copains, on avait bu la même bouteille d'huile d'olive. Et puis la vente, évidemment, a très bien marché, la Fontaine Gaillon. Et puis on est resté en contact, et à un moment donné... Effectivement, il a ressenti le besoin, on en avait parlé, ça a maturé, ça a mûri, et il a ressenti le besoin de tourner la page de Gérard Depardieu collectionneur, et de montrer au public ce qui était jusque-là vraiment son jardin secret, c'est-à-dire sa collection de tableaux et de sculptures.
Alors chez lui, à l'hôtel de Chambon, rue du Cherche-Midi, aucune toile n'était accrochée. Elles sont par terre, on sent qu'il ne veut pas faire de confrontation entre deux toiles sur deux murs différents. Sa collection, il l'a enrichi, mais il en jouissait. Il aimait retrouver ses tableaux, re-regarder ce qu'il avait acheté, ce qu'il avait.
Alors Gérard Depardieu, il découvre vraiment le monde de l'art et le monde de toute l'histoire de l'art lorsqu'il tourne Camille Claudel et qu'il incarne Rodin. Et il vit chez Rodin, et donc il va passer quelques semaines ou quelques mois chez Rodin, que ce soit dans le musée de la rue de Varennes, mais également à Meudon. Et il va toucher, il va dormir dans le lit de Rodin, il va découvrir Rodin. Et à travers ça, à travers Rodin, il va découvrir tout un monde, et il va vraiment se passionner pour ça. Il va étudier, il va lire beaucoup, il va beaucoup se documenter, et il va suivre son instinct. Alors ça a duré quelques années, il a commencé donc essentiellement dans les années 90 à collectionner, et puis ça va durer pas mal au début des années 2000.
Alors il va acheter tout de suite des Rodins.
Il va acheter des Rodins, il y en a trois qui sont présentés dans la vente.
Ouais.
Il va également acheter un bronze de Camille Claudel, qui est une valse de Camille Claudel, il a gardé, c'est la seule chose d'ailleurs qu'il a gardé de toute sa collection. Et à partir de là, il va dérouler le fil, donc il va s'intéresser à la fois à des artistes plus anciens, fin 19e, comme Odilon Redon, qui ouvre le catalogue. Il va collectionner pas mal de sculpteurs, d'abord art déco, comme L'Amour de Dieu. Puis il va se passionner pour un artiste qui s'appelle Eugène Leroy, dont il va collectionner. Il va découvrir, en fait, avec Eugène Leroy, le plaisir de collectionner une œuvre, non seulement pour l'œuvre, mais également pour l'artiste.
Oui, parce qu'il l'a rencontré, j'imagine. Eugène Leroy est mort en l'an 2000, il est né en 1910, et je pense qu'il a dû le rencontrer.
Il n'a pas rencontré Eugène Leroy.
Non,
il n'a pas rencontré Eugène Leroy, mais il s'est passionné pour son œuvre, et il a essayé pendant toute sa phase de collection de compléter un fonds qu'il avait acheté pour d'abord rendre service à un ami qui s'appelait le docteur Lalois, qui était un grand collectionneur, qui avait une collection mythique de Eugène Leroy, donc qu'il a racheté cette collection et l'a complétée. Et il va s'intéresser comme ça à des artistes comme Michaud, par exemple, et pareil, il va collectionner quasiment tous les encres de Michaud qui vont passer et qui vont compléter des séries qu'il peut avoir comme ça. Il va s'intéresser à Bernard Cantin.
Alors Bernard Cantin, qui avait été l'amant de Juliette Gréco, et qui va faire partie de toute cette bande avec... Reynaud, Restani, Resvani, Messager, toute cette bande qui va créer un autre truc à la fin des années 70.
Ce qui est bien avec vous, Christophe, c'est qu'on apprend toujours plus de choses que...
Eh bien, on va en apprendre par Gérard Depardieu lui-même.
effectivement, l'art fait peur, et puis surtout quand il est intelligent, quand il n'est pas provocateur. Mais c'est pas assez. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas dire sur l'art, parce que pour moi, l'art, c'est la vie. Mais c'est certainement pas une provocation. Le geste, tu t'en lasses jamais. Ça te plaît, ça te prend dans le vent, c'est pas intellectuel du tout. Il n'y a rien d'intellectuel et il n'y a surtout pas spéculatif. Il y a simplement une chose qui te touche, des bleus, une forme, des choses qui te rappellent des peintures. Ah mais là, le roi, c'est même plus de la peinture, c'est de la matière. C'est Eugène Leroy, c'est pas ça, c'est un espèce de géant devant ses questions. Je veux dire, moi j'aime la délicatesse, puis j'aime, c'est même pas l'intention. J'aime l'intelligence d'un tableau, j'aime voir le trait. Ils ont la couleur qui est là, qui est leur trait à eux, et c'est sublime. C'est sublime, absolument, comme dirait la Marguerite Duras. Et puis de supporter une œuvre. C'est pour ça que je ne vais jamais dans les musées, moi. Tu sors ivre-mort de là-dedans, tellement t'as de choses. C'est difficile de vivre avec des tableaux, parce que ça t'absorbe. C'est pour ça que moi, je ne j'accroche jamais, et que les tableaux viennent par eux-mêmes. Ça, je n'aimais pas clouer un tableau au mur. C'est quelque chose qui vient, encore une fois, parce que la peinture est forte. La peinture, c'est un choix qui peut-être peut annuler en même temps au niveau intellectuel. Ce n'est pas un placement, c'est des monuments, quoi. C'est des monuments avec des âmes d'enfants, mais ça va au-delà. C'est un peu comme le génie des enfants, des premiers dessins d'enfants.
Il est épatant quand il parle de la matière au sujet d'Eugène Leroy. Et moi, je pensais naturellement à ta pièce. Il n'y a qu'une seule œuvre de ta pièce dans la vente.
Oui, une petite œuvre de ta pièce.
Oui, hein, oui.
Pas... Mais il aimait ça pour le côté gestuel de ta pièce et la matière aussi de ta pièce qui est importante.
Ben oui.
Parce que j'ai l'artiste espagnol. Genre, c'est matière brute.
Ah
ça,
oui.
C'est très Depardieu.
C'est très Depardieu. Alors, j'imagine que ce que nous avons entendu, là, comme témoignage, il vous le donne, il vous le confie à vous. Vous avez beaucoup parlé avec lui ?
Alors, on a énormément parlé. Il nous a reçus dans son hôtel particulier, ouais. La rue du Cherche-Midi. Il faut l'imaginer, il y a une grande table, c'est une immense pièce, une grande table qui est couverte de livres. Et au bout de la table, il y a une chaise, et il y a un lampadaire qui éclaire cette chaise, et il y a Gérard Depardieu qui lit un livre de Matisse. Un discours Matisse. Mais c'est ça, Gérard Depardieu, aujourd'hui. Oui. Et c'est extraordinairement émouvant. Et il raconte des histoires, il raconte des anecdotes. Il est entouré de ses œuvres, mais ses œuvres, effectivement, elles sont contre le mur. Certaines sont côté face, d'autres côté pile. Mm-hmm. Et il va jouer avec. De temps en temps, il en prend une autre. Elle était derrière, il la met devant. Une autre qui était devant, il ne peut plus supporter, alors il la met derrière. Et il va jouer comme ça avec ses œuvres.
Alors, la grosse pièce, c'est le cas de le dire, c'est Germaine Richier, L'homme qui marche. Elle a repris le titre de Giacometti. Et c'est le clou du spectacle, j'allais dire, pour vous.
Alors, en tout cas, c'est l'œuvre estimée la plus chère dans la collection, puisqu'elle estime autour de 500 000 euros. Donc oui, c'est nécessairement un peu le clou de la vente. L'homme qui marche, c'est un bronze grandeur nature. C'est-à-dire que le bronze existait en petite version. Et Germaine Richier en a fait faire une en plus grande version, et c'est l'exemplaire unique. Et c'est celui qui le vit, c'est l'alter ego de Gérard Depardieu. Quand on rentre dans son hôtel, la sculpture, l'homme qui marche, vous attend face à la porte et vous observe. Et c'est une sculpture extraordinaire.
Et une force incroyable.
Ils ont essayé de la voir d'ailleurs aux deux rétrospectives qu'il y a eu à Paris et à Montpellier. Gérard Depardieu n'a pas prêté. Parce que Gérard Depardieu ne prête pas n'a jamais prêté ses œuvres. Il se fiche intégralement que les gens sachent ce qu'il a, que les gens, qu'il y ait une. Vous savez, souvent les gens prêtent, les collectionneurs prêtent dans les musées pour avoir une étiquette, pour que ça puisse participer au pédigré du tableau, au pédigré d'un bronze. Et Gérard Depardieu s'en fiche intégralement. Lui, il veut vivre avec les œuvres qu'elles avaient dans un musée, hors de question. S'il les a, elles sont à lui, et il les garde, et tous les jours, il les contemple.
Mais là, c'est un musée qui va acheter cet homme qui marche, Germaine Richier.
Ben ça, faudra, pour le savoir, il faudra venir mardi, à la vente.
Mardi, à la vente, à 14h. Il faut préciser...
À 18h, la vente, mardi.
À 18h, oui. C'est à 14h, c'est mercredi.
Ouais, c'est ça.
Il faut préciser, notamment pour tous les auditeurs des RCF, dans les 64 villes de France qui nous écoutent, qui peuvent assister à la vente via Internet.
Oui, absolument, oui. Alors, bien sûr, aujourd'hui, là, tous les moyens sont mis à disposition via les plateformes d'enchères en ligne, et notamment puisque Adair vend à Drouot a son propre système qui s'appelle Drouot Live, et alors évidemment les gens peuvent enchérir via Drouot Live, mais également suivre la vente, ils peuvent s'inscrire et puis regarder. Et alors évidemment c'est moins bien que d'être sur place, hein. on a moins l'ambiance, mais en tout cas on peut assister à la vente.
Vous attendez beaucoup de monde?
Oui, je pense qu'il y aura pas mal de monde.
Ouais. Vous avez le trac dans ces cas-là?
Non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment le trac.
Vous êtes commissaire priseur dans ces moments-là. Il a son grand numéro de cabot.
Oui, bien sûr. Bon, on va cabotiner. On va faire un peu le spectacle, ça, c'est
oui,
sûr.
Oui, si on peut le faire.
Mais non, je n'ai pas tellement le trac. Parce que, vous savez, la collection, elle est formidable.
Ouais.
On a le trac quand on se retrouve dans un enjeu qui paraît insurmontable. Et quand on dit, mais comment est-ce que je vais réussir à vendre toutes ces œuvres? Et là, on est quand même... Enfin, moi, j'ai adoré travailler sur cette collection. Cette collection, elle est... Bon, il se trouve qu'elle porte le patronyme Gérard Depardieu, mais c'est une collection d'œuvres qui est fantastique.
Mais alors comment vous l'avez préparé, cette collection? Parce qu'il faut lui donner un ordre, il faut savoir si on commence le catalogue par Zadkine et on le termine par Hartung. Comment vous préparez ça?
Ça, c'est une bonne question, mais celle-là, je ne l'ai pas souvent. Et ça me fait bien plaisir d'en parler, parce qu'on va vous rentrer dans les techniques de la...
Ben, moi, je suis toujours côté cuisine, vous savez, je suis comme Depardieu de ce côté-là.
Une curiosité qui vous honore. Eh bien, bon, d'abord, il y a toujours un petit côté temporel. C'est-à-dire qu'on va quand même commencer par les œuvres un peu plus anciennes, puis terminer par les œuvres un peu plus récentes. Donc ça, c'est quand même le fil directeur de cette vente, notamment. Et puis, on s'est rendu compte, lorsqu'on a préparé la vente, quand on était confronté à l'ensemble des tableaux, qu'il y avait en fait des sections. Il y avait la section Mag, par exemple. Il a beaucoup acheté des artistes de chez Mag. Et après, c'est l'artiste qui ont leur propre univers. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal d'artistes.
Quentin
Michaud Leroy. Il y a la section Art déco. Il y a la section Abstraction des années 50. Et en fait, les choses, assez bizarrement, vont se caler les unes derrière les autres assez facilement. Il y a ces affinités plus contemporaines, avec des achats qu'il a fait plus dernièrement et d'artistes vivants, ou en tout cas qu'il a d'artistes moins vieux. Et donc tout ça, ça va prendre forme, et à la fin le catalogue devient cohérent, et on va voir à travers ce catalogue les différentes facettes de sa collection.
Et puis on va assister aussi à la vente, le show quand le marteau tomba dans la salle des ventes.
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria : je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'est trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passe si vite qu'on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30. Et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire. Son seul amour de femme, son seul amour de femme. De la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. Agarde le sortit de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu.
Quand Barbara Chandrot, on a encore des frissons, mais c'était incontournable pour Gérard Depardieu.
Alors Gérard Depardieu, effectivement... C'est encore plus émouvant, parce qu'il me l'a chanté,
ouais.
Il me disait tous les deux, il me l'a susurré, cette grande table, comme ça. Et je peux vous dire que si là, c'est émouvant d'écouter Barbara, mais écouter Depardieu susurrer cette chanson de Barbara, c'est bouleversant.
Et alors, en préparant l'émission, et en préparant ce drouot de Barbara, je me suis dit que si Gérard Depardieu écoutait notre émission, peut-être que lundi, aujourd'hui, il allait dire non, non, finalement, on ne fait pas la vente demain ni après-demain.
Ne me portez pas le
vous allez m'en vouloir à ce moment-là. Parlons un peu des prix. Parce que lorsqu'on feuillette le catalogue ou lorsqu'on regarde votre site qui est remarquablement fait, le site ADER, votre étude, maître David Dorman, puisque vous êtes le commissaire priseur, quand on voit les prix, on trouve que c'est quand même vachement bas. Il y a des œuvres superbes. On se dit, tiens, pour 1500 euros, ça pourrait le faire. Quelle est la différence, quand vous faites votre estimation, à peu près, quelle est la différence entre ce que vous imprimez et ce qui va se passer?
Alors d'abord, c'est votre point de vue, hein, que c'est pas cher. Moi, je vous laisse le dire, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des œuvres, effectivement...
Non, mais il faut aussi dire aux auditeurs, venez à Drouot, ne soyez pas impressionnés en vous disant que c'est pas pour vous, que c'est pas pour votre budget, etc. On trouve toujours des choses, et on a des coups de cœur, et comme Gérard Depardieu, on est asphyxié par une œuvre, et on la prend.
Alors d'abord, bon... Le pas cher de certains et peut être très cher,
oui,
pour d'autres.
Oui.
Je veux dire, c'est qu'il faut quand même relativiser. L'art, c'est quand même... Il y a tous les prix, il y a vraiment tous les prix. On peut acheter des objets d'art à quelques dizaines d'euros et jusqu'à quelques millions. Donc vraiment, une manière de se faire plaisir à toute bourse. Mais bon, c'est quand même... dans la vente de Pardieu, c'est ce qu'on a cherché à faire, et parce que aussi l'homme est comme ça, donner à chacun, selon ses moyens, la possibilité d'acheter un petit souvenir de Gérard Depardieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, ont quand même beaucoup de moyens, parce que pour acheter Germaine Richier à 500, 600 ou 700 000 euros, faut quand même pouvoir le faire.
Oui.
Et puis, à toutes les bourses. Mais on a choisi de mettre, par exemple, des œuvres, effectivement, de Bernard Cantin qui valent 500, 600, 1000 euros. On a des œuvres d'une artiste Azéric Spellmaria qui valent quelques milliers d'euros. Et ça, ce sont les estimations.
Eugène-Henri Duller, 400 euros.
Voilà. Bon. Eugène-Henri Duller, c'est un sculpteur art déco. On peut acheter pour ce prix-là.
C'est magnifique.
Une très jolie sculpture.
Très jolie.
Alors, vous me posez la question, le gap entre l'estimation et le prix réalisé.
Oui.
Très honnêtement, j'en sais rien. Ça dépendra de la mayonnaise. Ça dépendra
vous avez de l'expérience, vous avez du métier.
Alors, je vais répondre. Je vais essayer de ne pas être langue de bois là-dessus.
Ouais.
Gérard Depardieu nous a laissé toute latitude pour mettre les prix qu'on voulait mettre.
D'accord.
Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire que une vente correcte, une vente qui se fait avec le prix de l'offre et de la demande, c'est une vente dans laquelle le prix se fait au marteau. C'est-à-dire que c'est vraiment la compétition des acheteurs qui va faire que le prix va se déterminer. Donc on met des estimations, qui sont des estimations correctes dans le marché, mais plutôt pessimistes. De manière à ce que ça serve de base un petit peu
oui.
À l'ajout d'enchères, de manière à ce que le prix qui va se déterminer, qui va être donc le dernier enchérisseur, qui va être la dernière enchère, eh bien se fasse vraiment après un combat entre les enchérisseurs, et de manière à ce que ce ne soit pas juste une lutte entre les désirs d'un vendeur et un seul acheteur qui se déterminerait. Donc on met des prix qui sont censés être des prix d'appel et oui. si possible susceptibles d'être dépassés.
Vous aimez ce combat d'acheteurs ?
Mais c'est la beauté de ce métier, oui. entre autres, c'est de voir la passion des acheteurs, la passion des collectionneurs et se battre les uns contre les autres parce qu'il y a un respect mutuel, mais il y a aussi l'envie de mettre une petite en plus et de aller, on va pas être raisonnable ce soir. Oui. Parce qu'au début, moi j'adore ça, c'est faire passer le petit clap, le petit plafond de verre du raisonnable.
Oui.
Et souvent on a des couples qui viennent acheter comme ça, c'est très drôle, et on voit l'un des deux, c'est souvent le mari qui enchérit, puis la femme qui dit non, arrête, on s'est dit. Et donc il s'arrête à un moment, puis... Et c'est là où tout va se jouer. Est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce qu'ils vont vraiment s'arrêter ? Et j'essaye parfois de leur dire, mais ne soyez pas trop raisonnables. Parce qu'il faut quand même, pour qu'une œuvre... C'est merveilleux de repartir avec une œuvre qui a fait une bataille d'enchères. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres gens qui l'ont convoité.
Oui, parce que maintenant, on a les acheteurs au téléphone. On a les acheteurs sur Internet qui peuvent cliquer directement. Donc, on ne voit pas toujours le combat de coq qui se fait.
Alors, moi, je le vois.
Ah oui.
Moi, je le vois. J'ai évidemment accès à toutes les données. Donc, je vois les enchères de partout. Évidemment. Et je pense qu'à la vente de Pardieu, il y aura pas mal de monde en salle. Parce que la vente vaut quand même la peine.
Ouais.
Et il y a beaucoup de gens qui veulent participer à l'événement. Évidemment. J'adorerais pouvoir faire que les acheteurs ne soient qu'en salle et qu'il y ait des joutes d'enchères comme à l'époque où effectivement tout se faisait en salle. Malheureusement, c'est pas possible. Et alors, malheureusement, heureusement, parce qu'on a comme ça des acheteurs du monde entier qui peuvent acheter de leur canapé. Mais l'intérêt d'avoir des estimations qui sont, disons, relativement attractives par rapport à l'œuvre donnée, c'est de donner quand même toute latitude au marché d'établir le juste prix.
Ouais.
On n'achète jamais. Contre une réserve, on achète contre un autre enchérisseur. C'est le juste prix.
Question idiote, il sera là.
Peut-être.
Peut-être, voilà, on ne sait pas. Ou il sera peut-être déjà parti sur son bateau en attendant le résultat final que vous lui enverrez. Parmi tous ces tableaux, vous avez eu, vous, un coup de cœur particulier pour un peintre que vous connaissiez moins ou un peintre que vous connaissez très très bien, en vous disant, finalement, si je pouvais acheter ça, je serais content.
Artung. Vous êtes tombé dessus, il y a un petit encre de Chine d'Artung, jamais très bien chez moi, celle-là.
Ça, c'est
numéro, super. Numéro 155 de la vente, ne soyez pas trop nombreux à chier dessus.
Il est entre 15 000 et 20 000.
Entre 15 000, et voilà. Ça, c'est, j'adore, c'est, je trouve que c'est tellement spontané. C'est un petit bijou, c'est pas très grand. Et c'est tout enlevé, c'est à la fois la rigueur de l'abstraction d'Artung, mais en même temps, il y a un côté gestuel qui est assez exceptionnel. J'adore ce petit encre de 47 qui est très précurseur dans ce que va faire plus tard Artung.
Alors, dans les deux ventes, mardi 18h, donc demain 18h et après-demain à 14h, la première vente, moi, dans le catalogue, m'a complètement emballé et complètement séduit parce qu'on a les Rodin, parce qu'on a le Germaine Richier, parce que. Et que dans la deuxième partie, alors là, on a vraiment les Quentin Michaud Leroy, que l'on connaît moins bien, mais justement. Donnez-nous envie de venir à la deuxième partie.
Ouais, la deuxième partie, d'abord, les choses, il y a des choses plus accessibles.
Oui.
Plus aussi, dans la chronologie des œuvres, ce sont des choses qui sont quand même un peu plus tardives.
Oui.
C'est-à-dire que dans la première partie, on est surtout beaucoup au début du 20e. Deuxième partie, on est à la deuxième partie du 20e. Mais il y a des choses absolument formidable la deuxième partie, hein, faut pas croire. Même si le Germaine Richier est dans la première partie, les bronzes de Rodin sont dans la première partie, mais tous les Artung, les Polyakov, les Debré, tout ça, c'est la deuxième partie. Attention, c'est magnifique.
Ouais, oui.
Magnifique tout ça. Et c'est des choses que Voilà, c'est... Et alors, puis il y a tous les Leroy. Enfin, il y a des choses formidables, la deuxième partie. Faut pas croire. D'ailleurs, il y aura autant de monde dans la deuxième partie, même peut-être plus, parce que c'est peut-être plus accessible aussi.
Merci, merci beaucoup, David Norman. Je rappelle que vous êtes le patron de l'étude ADER, commissaire-priseur, et que vous animez, vous organisez, vous réalisez la vente de la collection Gérard Depardieu. C'est demain à Drouot à 18h et mercredi à 14h. On peut aussi suivre les ventes en direct sur Internet, et ça, il faut absolument le faire, parce que c'est vraiment un grand moment, quoi. Et puis on va vous voir à l'œuvre, j'aime bien. Alors il me reste à vous remercier et à remercier Cédric Coba, Philippe Malpeuch, François Dudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la préparation de cette émission. Demain, mardi, nous causerons littérature et j'aurai la joie de m'entretenir avec Gérard de Cortance pour son nouveau roman qui s'appelle Une jeune fille en feu. C'est une histoire de sainte au XIIe siècle. C'est un répertoire qui était assez inattendu pour Gérard de Cortance, donc ça va être tout à fait passionnant. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse.